Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
Alors, ce qui m'a marqué, et c'est pour ça qu'on va en parler, c'est une interview que j'ai lue dans le quotidien espagnol El País, cette semaine, de Lamine Yamal. Vous savez, la star de La Roja, la sélection espagnole. Il est interrogé sur son auto-perception par rapport aux attentes très importantes du public, et notamment le public espagnol, oui, de La Roja, mon cher Cédric. Il dit ceci à l'attaquant de 18 ans, « Je me vois meilleur que ce que les gens voient. » Ah, tout le monde ne dit pas ce genre de choses quand même. Certains le pensent, mais ne le disent pas forcément, surtout les sportifs de haut niveau, parce qu'ils peuvent être parfois un petit peu attaqués pour ce genre de propos. Je voudrais qu'on parle de ça aujourd'hui à travers vos expériences. L'importance de l'ego dans le sport de haut niveau. L'ego qui est souvent un mot un peu tabou, qui est souvent un mot un peu genre, oh là là, il va falloir gérer les egos dans un vestiaire, c'est peut-être le plus gros problème. Est-ce qu'on peut en parler, Cédric Aymans? Tiens, je vais commencer
mais
par toi.
Mais bien sûr.
Vous aviez tous de l'ego, tous et toutes, oui. Hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'on est obligé d'avoir de l'ego dans le sport de haut niveau?
Je pense que ça fait partie du sportif de haut niveau d'avoir de l'ego. Après, il ne faut pas confondre ego et grosse tête ou suffisance. Tu es obligé de t'aimer pour réussir dans le sport de haut niveau parce que tu sais que tu vas souffrir. Tu es obligé d'avoir ce recul sur tes performances parce que si tu t'amuses à écouter tout ce qui se dit autour de toi, ben, tu peux parfois être déstabilisé. Il faut vraiment se concentrer sur sa petite personne, sur l'univers dans lequel tu évolues. Et si tu ne t'aimes pas, de toute façon, tu n'es que le reflet de ce que tu envoies.
Wow.
Moi, je sais que jeune, j'ai eu la grosse tête. Je me suis bien fait remettre en place.
Ah ouais?
Grave, par Pierre Néra, Jean Faro, si vous m'écoutez, merci.
Il y a toujours un peu. Hein.
Non, maintenant, c'est de la confiance. C'est pas pareil. Et après, donc ça m'a amené une période de doute où le questionnement poussé à son extrême a amené chez moi une période de doute. Et après, le gourou Novès s'est passé par là et il m'a dit non, et confiance en toi, crois en ce que tu es capable de faire, surjoue pas.
Ah bah, Toulouse, si t'as pas d'ego, tu survis pas.
Exactement, parce que je donne souvent cet exemple. C'est dans le vestiaire, tu vois qui a de l'ego ou pas, tu jettes un steak et tu sais souvent qui va manger et qui va regarder les autres manger.
Viens la gamelle,
viens. Voilà. C'est bizarre avec t'es vraiment obligé d'avoir ce petit supplément d'ego pour réussir parce que c'est une telle souffrance des sportifs de haut niveau que t'es obligé d'être dans la rivalité avec les autres. Mais j'insiste bien, ego ne veut pas dire avoir la grosse tête.
Philippe, tu préfères avoir un vestiaire avec de gros égos ou avec peu d'égos?
Un vestiaire avec plein d'égos.
Ah ouais?
Tu gagnes avec des joueurs qui ont des gros égos. Alors l'ego,
tu gagnes avec l'ego. Ceux qui gagnent,
l'ego est la représentation et la conscience que l'on a de soi-même. Donc il faut déjà comprendre ce que c'est que l'ego. Sincèrement, tu peux avoir des joueurs, tu les entends sur les interviews avec beaucoup d'humilité, mais quand tu les connais, il y a que moi j'entraînais un grand demi d'ouverture et je disais celui-là, il est pas mal. Non, il a pas de pied gauche. Celui-là, ah non, il a pas de passe. Il y avait qu'un ouvreur qui était bon, c'était lui. Alors, tu faisais des interviews, les mecs, oh purée, il était humble, il avait beaucoup d'humilité devant les médias, mais sinon c'est des joueurs qui ont un ego surdimensionné, mais qui gagnent parce qu'ils veulent être les meilleurs. Donc ils ont un niveau d'exigence qui est incroyable.
Parce qu'il a de l'ego, il a un niveau d'exigence plus important que les autres.
Alors dans les sports individuels, c'est encore plus, mais dans les sports collectifs, il faut avoir plein de joueurs avec des égos surdimensionnés et après de faire la quintessence et qu'ils soient prêts à vivre une aventure exceptionnelle pour gagner ensemble. Donc nous, c'est une alchimie qui est beaucoup plus compliquée que dans un sport individuel.
Bien sûr. Le plus compliqué, c'est quand l'ego prend le pas sur, dans notre sport, un sport collectif, quand l'ego qu'on a beaucoup dans le vestiaire prend le pas sur l'intérêt commun.
Oui, mais alors ça, c'est les starlets, ça s'appelle. Un grand champion, il a un ego surdimensionné
au
service des autres, au service du collectif, pour qu'une chose, c'est gagner et gagner des trophées.
Jérôme, t'as couru avec des coureurs qui avaient le boulard, comme Tom Boonen ou Mark Cavendish.
Avec des grands champions.
Qui avaient de l'ego. Tom Boonen et Mark Cavendish. T'as été dans l'équipe Quickstep. On rappelle, c'est l'équivalent du Real Madrid, en fait, des classiques et même en général, hein, dans le vélo, surtout à ton époque. Il n'y avait que des égos, il n'y avait que des lions. Si oui, t'arrives avec un lionceau.
Il n'y avait que des lions. Et c'est là où, moi qui n'ai pas un ego surdimensionné, j'ai dû travailler sur moi et faire ressortir l'ego parce qu'on en a tous, parce qu'on est en compétition. en permanence. Quand tu fais du cyclisme, la base, c'est le collectif, d'accord? Moi, j'ai été élevé dans cette idée du collectif d'abord par Jean-René Bernodeau. Mais Jean-René avait lui aussi un gros ego et il fallait faire face à ce garçon-là. Et donc, tu construis ta carrière étape par étape en pensant qu'à toi. Il faut juste faire attention à la limite très fragile entre ego et égoïsme. On bascule très vite dans l'égoïsme quand on gère mal. Je crois que l'ego va avec l'intelligence. Si tu la gères mal, tu tombes dans l'égoïsme. Si tu n'es pas futé et pas très intelligent, tu as l'impression que ton ego va suffire à ta réussite et c'est pas vrai. Après, dans un vestiaire, donc moi c'est dans le bus, il faut gérer les égos et tu as deux types de mecs avec d'énormes égos parce que tu as un Cavendish qui est ultra centré sur lui-même pendant la compétition, qui ne pense qu'à lui, qui est forcément convaincu qu'il n'y a pas plus vite que lui, pas plus rapide que lui, et c'est lui qui va gagner.
C'est ce qui le fait aller vite.
Mais c'est ce qui le fait aller très vite, c'est ce qui lui fait prendre des risques et c'est ce qui lui fait gagner. Et en revanche, une fois que la course est finie, il se retourne vers les autres. Il a toujours de l'ego, c'est un meneur, mais il est toujours ce que moi j'appelle un senior, c'est-à-dire qu'il
est
bienveillant avec les autres. Mmh. Au contraire de certains autres. Mais faut faire avec. Il y a des coureurs, t'en as cité un à l'instant, qui ont un ego surdimensionné et qui se fichent des autres, en fait, qui sont centrés sur eux-mêmes, mais qui...
C'est le roi et sa cour au service.
Mais quand tu es à ce niveau-là de performance, quand tu es sous les projecteurs et qu'on attend de toi uniquement une chose, c'est que tu gagnes. Tu n'as pas le droit de perdre. Eh bien, c'est la difficulté qu'il faut mettre en place des choses pour pouvoir continuer à performer. Gérer toi-même ton ego et le faire accepter par les autres. D'en avoir, c'est logique. Mais de le faire accepter par les autres, ça, c'est plus difficile.
S'il y a quelqu'un qui n'a pas d'ego autour de la table, c'est quand même Marlon Bartoli. Hein. Moi, je peux vous le dire. On est dans le vestiaire. Sur n'importe quoi. Mais non, mais attendez, c'est intéressant parce que parfois, j'entends, on reproche à Marion. Oh, Marion, quand même, elle a de l'ego. Oui, mais attendez, Marion, c'est aussi ce qui t'a permis de gagner Wimbledon. Si tu n'avais pas d'ego, tu ne rentres pas sur le center court. Non, mais raconte-nous un peu.
C'est l'essence de la performance.
Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Parce que je suis sûr, parfois, tu entends qu'on te le reproche. Mais qu'est-ce que tu peux dire là-dessus?
Non, mais alors je souscris totalement à ce qui a été dit par mes copains et je ne vais pas le répéter. Moi,
c'est un gros mot en France parfois, l'ego. Hein.
Oui, mais en fait, il ne faut pas confondre l'ego et l'arrogance. Et en fait, l'ego, il est nécessaire et c'est une nécessité, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour la grande performance et pour la haute performance. Sinon, très honnêtement, rentrer devant 15 000 personnes pour un terrain de tennis, voire plus grand quand tu joues dans les plus grands stades, et des millions de gens qui vous regardent dans la télé et que vous avez Serena en face de vous, ou Vénus, ou Serena, ou Kim Clijsters, ou Amélie, ou toutes les joueuses que j'ai, ou Sharapova, ou toutes les joueuses
si tu as pas une grande estime de toi, tu peux
non,
même
pas
y aller.
Si tu fais petite fille, tu dis je suis désolée, maintenant je vais regarder devant la télé parce que c'est mieux.
À
un moment donné, il faut l'ego, il faut être persuadé qu'effectivement tu as ta place et que en fait pour moi l'ego c'est une force à partir du moment où il est maîtrisé, c'est-à-dire que canaliser pour moi c'est le moteur de l'excellence. L'ego te permet de résister à la critique, c'est-à-dire que tu vas être persuadé que tu vas y arriver
et tu veux prouver que c'est les autres ont tort.
Voilà, exactement. Pour ma part, c'était mon moteur essentiel. Mon moteur essentiel de me dire que depuis que j'avais l'âge de 8 ans, je rêvais de remporter un tournoi du Grand Chelem, mais si possible, effectivement, par rapport à mon jeu, plutôt Wimbledon, mais j'aurais adoré, bien évidemment, remporter Roland Garros. Alors, tout le monde me disait que j'étais vraiment, mais très, très loin du compte. Et si t'as pas d'ego, effectivement, tu t'écoutes, on va dire,
ils ont peut-être raison.
Les voix populaires qui vont te dire, finalement, oui, je suis peut-être pas fait pour ça, et puis, quart de finale, ça me suffira largement, et puis d'être rentrée mondiale, c'est très, très bien au final. Donc, l'ego est nécessaire. En revanche, là où l'ego devient destructeur pour moi, c'est quand en fait, n'es plus capable d'entendre la critique. C'est-à-dire que tu ne veux plus progresser, que tu arrives plus à écouter tes entraîneurs ou écouter les gens qui croient en toi, mais te montrent aussi qu'il y a des failles et que donc il va falloir progresser si tu veux arriver réellement à aller challenger les meilleurs. Et c'est là où moi, effectivement, j'ai passé ma vie à travailler pour avoir cette quête finale. Mais tu ne peux pas être une personne normale avec, on va dire, un système de pensée normal et rentrer sur une finale au Grand Chelem ou sur des matchs à très haut niveau. Il faut croire en soi, il faut être un peu fou. Mais comme une finale de Coupe du Monde, comme tirer un penalty pour faire gagner mon équipe sur une finale de Coupe du Monde, c'est des moments qui sont quand même dans une vie.
La raison, c'est que quand tu n'es pas capable d'écouter, dû à ton ego.
Exactement. Quand tu n'arrives plus à écouter la critique.
Exactement. Ton entourage.
Là,
proche,
ça devient compliqué.
Tu n'arrives plus à l'écouter et cette position qui te dit mais j'ai raison, je vais continuer et tu vas jusqu'au bout
la
de ta démarche.
La critique constructive, il faut vraiment l'écouter. Ouais, il faut vraiment l'écouter.
Le sport de haut niveau, c'est une jungle incroyable. Et donc, que ça soit dans le cyclisme, dans le tennis ou dans le rugby, il y en a 10 000 qui veulent y arriver et t'en as que 15 ou 20. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut avoir de l'ego, il faut avoir de l'autodétermination. Par contre,
on en a vu dans des vestiaires des joueurs qui se contentaient d'être remplaçants, qui étaient bien dans la vie de groupe. Mais c'est pas des grands champions.
Non, mais ou des coureurs dans un peloton, Jérôme, qui se font bousculer et qui laissent passer le patron.
À partir du moment où t'as décidé de subir, tu mets ton ego de côté, tu vas subir, mais tu feras pas la carrière et tu feras pas partie des meilleurs. Sans ego, tu ne fais pas partie des meilleurs.
Mais Marion, par exemple, moi je veux savoir quand tu rentres sur le center court que tu affrontes Serena Williams.
Oui.
Qui est la meilleure joueuse de tous les temps.
Elle a envie de la becter.
Non, mais qu'est-ce que tu te dis? Non, mais c'est ça.
Mais elle a envie de la becter.
Bien sûr.
C'est comme nous quand on jouait les All Blacks. Si tu as peur du AK, tu te
mets face aux All Blacks. Pourquoi tu as toutes ces intentions face aux All Blacks? C'était pour ça. C'est-à-dire, on est là, on est présent, on va vous montrer qu'on existe à ce moment-là.
Marion, tu t'es vraiment dit, je vais bouffer Serena Williams en rentrant sur le center court?
Bien évidemment, mais sinon tu rentres même pas sur le court. Mais en plus, elle le sent.
Tu te parles beaucoup.
Quand tu rentres sur de telles joueuses, ou même quand t'as Novak ou Roger ou Rafa sur le terrain, ils sentent l'odeur du sang. Donc si tu commences à faire, c'est la loi de la jungle. T'as une lionne en face de toi, et si tu commences à faire l'antilope, effectivement, tu vas te faire bouffer assez rapidement. Si c'est un combat lion ou de lionne, et qu'à un moment donné, tu rentres avec des armes que tu sais que tu vas être capable de servir à une certaine vitesse, donc du coup, elle aura peut-être un peu moins la possibilité de mettre des retours gagnants, que si t'as une micro faille sur un moment donné de jeu de service, tu vas engouffrer, en tout cas tu vas tenter de le faire. D'ailleurs, elle va beaucoup plus se respecter pour ça. Et c'est là où justement ces grands champions sont la capacité de se remettre en question. Quand tu vois Novak Djokovic, la manière dont il a fait évoluer son jeu au fur et à mesure des années, Rafa Nadal, la manière dont il a fait évoluer son jeu au fur et à mesure des années, pareil pour Roger. Sinner ne joue pas la même façon il y a 5 ans qu'aujourd'hui. Ces immenses champions ont la capacité d'avoir assez de recul et assez d'humilité quand il te faut à l'entraînement pour progresser. Par contre, quand ils sont sur le terrain, mais je t'explique, mais s'ils peuvent te manger.
Cette image d'odeur du sang. Ça, c'est vraiment quand tu rentres les 3-4 minutes avant de rentrer, mais t'es imprégné par ça.
Vous commencez à me faire peur, hein, mais.
Non, mais. Faut relativiser, mais tu sais que tu vas
à la. C'est des prédateurs,
ouais,
en fait.
Exactement.
Ouais, prédatrice. Tu dis,
je suis le plus fort de la jungle. C'est un outil de motivation, c'est un outil où tu vas chercher ça, où quand t'as souffert et que t'as ce petit goût en bouche.
C'est un outil de motivation. Mais c'est aussi un outil, c'est un moteur dans l'après-carrière aussi.
Et c'est ce qui manque quand tu arrêtes. Hein.
J'ai une anecdote qui est assez incroyable là-dessus. C'était Jacques Fourou qui était un entraîneur incroyable. Et à un moment donné, il a un choix à faire entre deux joueurs. Les médias voulaient un joueur, lui voulait l'autre. Et donc, il fait une conférence de presse. Et il dit, les gars, les deux, pendant 15 jours, on ne leur donne pas à manger. Je les mets dans une salle. Et je mets un steak.
Vous êtes tarés avec vos steaks.
Qui est-ce qui mange le steak? Et donc tous les mecs ils disent ce joueur-là qu'il ne voulait pas. Et donc il dit lui titulaire, l'autre remplaçant.
Mais vous êtes trop à l'extrême. En encadrant les jeunes, c'est ce que je leur dis, c'est celui qui a faim qui va y arriver.
Mais oui,
c'est qui est capable de faire le mètre de plus.
Pour chaque entraînement, vous allez à la boucherie, les gars, en fait.
C'est celui qui a la grinta.
On a tous des anecdotes comme ça. Moi, je me souviens d'un championnat de France, justement, à cette période-là. Je n'avais pas signé mon contrat et c'est de rigueur dans cette équipe. Tu n'as pas signé de contrat, tu ne vas pas au tour. Et mon manager de l'époque, Jean-René, me dit tu n'iras pas au tour. Il y avait le championnat de France à Aurillac. Je dis on va voir si je ne vais pas aller au tour. J'ai fait une course de folie, j'ai écrasé les adversaires, je n'ai pas gagné.
Il t'a emmené au tour.
Le soir, il me dit on fait la sélection demain. Mais je dis, je la connais la sélection, j'y vais autour. Tu peux pas te passer de moi.
Parce que là, en fait, ton carburant, ça a été tu vas voir qui je suis.
Mais bien sûr.
Tu vas voir qui je suis.
Tu vois, il y en a même carburant que moi.
Et ça nous sert après notre carrière. Ce qu'il faut bien gérer, c'est quand t'es à la maison, t'es plus sur le terrain. Donc, il faut bien gérer l'ego dans la famille.
Mais quand tu es à la maison, c'est qui mange le steak.
Et par contre, quand tu as des moments difficiles, moi, j'ai connu des moments très difficiles après l'arrêt de l'équipe et après les déboires de l'équipe BNB Hotel. Sans ego, j'y arrive pas. tu te relèves pas. C'est un outil qui va te servir toute ta vie pour aller démarcher, pour aller chercher.
Sinon, on n'arriverait pas à finir 3 heures des grandes gueules du sport. Est-ce qu'on prend dans la tête?
Exactement. Mais c'est pareil pour les hommes politiques, pour les chefs d'entreprise. Ils sont dans la même ADN.
Exactement. Non, mais c'est vrai.
Mais oui, tu le ramènes à cette responsabilité.
Le président de la République, il n'a pas d'ego.
Mais Georges, vous, c'est pareil. Il y en a 10 qui veulent faire les grandes gueules.
T'es chassé.
C'est toi.
Il n'y a pas des chasseurs autour de toi. Raconte-nous ce que tu vis, Georges. C'est toutes ces nuits d'insomnie où tu n'arrives pas à dormir, où tu te poses des questions.
À chaque fois que je rentre dans le studio et je vois Christophe Cessieux, je me dis, je vais le becter. Très clairement. Le problème, c'est si je mets un steak, il arrivera toujours en premier.
J'allais te dire, c'est pas le test du steak.
On parle de l'importance de l'ego dans le vestiaire des grandes gueules du sport. Philippe, t'as entraîné en Angleterre. Ouais. En Angleterre ou peut-être dans les pays anglo-saxons en général, où avoir beaucoup d'ego, j'ai l'impression que c'est très valorisé.
C'est mieux vu.
Non mais en France, c'est un peu un mot.
Alors aux États-Unis encore plus. Hein.
En France, ego égale grosse tête, c'est
faux. Oui, parce qu'en France, on confond tout l'ego en disant celui-là, il a un cigare.
Regarde Mbappé,
il a aucune humilité. Tu peux avoir de l'ego et puis avoir de l'humilité. Mais nous, on confond tout. Mais un grand champion, il a besoin de cet ego. Sinon, il se fait bouffer. Sinon, il se fait becter.
Et donc, à partir de États-Unis, hein.
Voilà,
Jordan, Michael Jordan, c'est lui qui voulait à chaque fois prendre le shoot sur le buzzer.
Bien sûr, il est perfusé à ça. Il n'attend que ça. Il est là que pour ça. Et ce qu'ils ont contrairement à nous, c'est que eux, anglo-saxons, États-Unis, ils le disent.
Mais c'est un choc culturel quand tu vas en Angleterre. Ben
oui. Moi, c'est un choc culturel. Ouais.
L'anecdote de mon amitié avec Marc Cavendish, elle part d'une journée très spéciale autour de France.
Cavendish est britannique, on rappelle. Il vient d'Île de Man.
Il fait 6 ou 7 étapes du Tour. Il a toujours pas gagné. Et il gagne dans une étape où le poisson pilote lance un bidon, là, enfin bref, je sais plus.
Rencho?
Je sais plus, ouais, Rencho est éliminé de la course et lui gagne. Il est tellement critiqué parce qu'à l'époque, il y a la guerre avec Greppel et dans la même équipe. Moi, je suis maillot à poids du Tour. On va backstage avant le podium.
En coulisses.
Il est en larmes. Il est effondré.
Il a gagné, il est
soulagé d'avoir gagné, il est donc en larmes. Un petit garçon. Moi, cette anecdote, je lui ressortirai plus tard en lui disant, là, j'ai vu le vrai mec que tu es. Parce qu'avant, il était imbuvable. Et il va chercher le trophée de la victoire d'étape, il répond aux interviews, et là, l'ego reprend le dessus, parce qu'il veut convaincre et se convaincre, il dit, je suis le meilleur sprinteur du monde. Gagner sur le Tour, ça devait arriver, c'est la première et ça va continuer.
Il fait des déclarations la plupart du temps pour se rassurer lui-même.
Souvent.
Il dit, ben oui, c'est
Yamal qui dit ça.
Il en a besoin à ce moment-là.
Ça s'appelle le body language.
Exactement.
Non, tu sais ce qu'il fait.
Le body language.
Et, par exemple, les équipes de rugby en Angleterre, moi, quand je suis entraîné, à la 40e minute, quand l'arbitre siffle, il fallait rentrer en sprint au vestiaire.
Pour dire t'es frais.
Voilà. Pour dire, on est frais, on est mieux physiquement que vous. C'est juste une préparation mentale.
Hier, Dupont rentre au vestiaire à la mi-temps en courant. Hein.
Ouais. Non mais Dembélé aussi face à la Norvège, l'a fait. Oui. Non mais toi, quand je t'ai dit c'était un choc culturel, tu m'as dit ah bah oui, choc culturel en Angleterre.
Ah oui.
T'as été surpris au début.
Mais surpris.
Parce que c'est vrai qu'en France c'est un peu le dictat de l'humilité quoi.
D'ailleurs, un joueur comme l'Europe qui était décrié en France,
ça l'a transformé de devenir à Manchester, ça l'a transformé.
C'est poussé la barbe.
Thierry Henry s'est construit à Arsenal aussi.
Mais après, pour Sébastien Chabal, Bourgoin, il était près des stations de ski, il était près de Lyon, il était près de la plage. À Manchester, 300 jours de pluie par an. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est entraîné, il s'est mis à la salle de musculation. Et donc, après, il était pénible à prendre, on va dire.
Ça se construit en ego ou c'est inné?
Je crois que tu l'as. Mais ça s'entretient et ça se développe.
Ça s'entretient, oui.
Et ça peut se développer aussi avec des bons entraîneurs et des bons éducateurs.
Oui,
et
puis ça se développe avec ta carrière, puisque comme le dit Philippe, on est tous là autour de la table. Le parcours n'est pas simple pour y arriver. Il faut en donner des coups de coude pour être parmi les élus, alors qu'il y a tellement de monde au départ.
Au final,
tu te construis comme ça. Ça va avec ce que je dis souvent, et parfois on me regarde un peu de travers quand je dis ça. On n'est pas des gens normaux quand tu fais du sport de haut niveau, et tout ça est exacerbé. la problématique, et je vais vous reverrir, c'est d'arriver à gérer ça une fois que c'est fini.
Mais le plus dur aussi, et là Philippe peut peut-être en témoigner, c'est que quand tu as de l'ego dans ton vestiaire de la part de tes joueurs et que tu as de l'ego de la part de ton entraîneur.
Mais ton entraîneur a aussi beaucoup d'ego.
Et là, l'équilibre est fragile parce qu'il faut laisser de la place à tout le monde. Il faut laisser le joueur devenir un peu star, mais il faut le remettre à sa place. C'est pas forcément simple.
Mais juste les quatre là, on a fait une petite carrière, mais on a fait une carrière. Combien de fois le jeudi soir, le vendredi, quand tes copains te disent on va en boîte de nuit,
moi j'y allais,
on va en fête, et que toi tu restes chez toi,
et que tu vas t'entraîner, et que
t'as des matchs à préparer, etc.
Philippe, les réunions de famille, les repas, les dimanches sacrifiés.
Mais tu penses que t'es capable d'arriver très haut si tu fais ces sacrifices.
Mais moi j'avais des potes à moi, ils étaient plus doués que moi. Mais eux le jeudi, ils préféraient.
Bah, j'allais sortir.
Et donc à un moment donné, on dit l'ego ou l'autodétermination ou le fait.
C'est aussi le travail.
Mais c'est aussi le travail. Mmh. Et ce travail qui est invisible, mais sur 10, 15 ans, qui fait une différence incroyable. Mmh. Alors maintenant, j'y vais le jeudi.
je le provoque. Il envoie des coups WhatsApp. Rendez-vous le jeudi.
Voilà. Mais les sacrifices, il y a des sacrifices qui sont
invisibles.
Ça nourrit tout ça. Ça nourrit ça. Mais Kobe Bryant, Marion.
Vas-y, Marion.
Pardon, excuse-moi. Mais non, mais c'est l'histoire de Kobe Bryant qui expliquait que pendant des étés, il passait des étés, personne voulait le prendre dans son équipe, il marquait un point, c'était le plus fin, le plus gringalé, il arrivait pas à prendre de muscles, il pensait ne jamais être drafté, etc. Et puis, en fait, il a compris que s'il s'entraînait deux fois plus que les autres, donc s'il commençait ses journées à 4h du matin dans les salles de gym et qu'il faisait 4 trainings par jour, 4 entraînements au lieu de 2, ben, au bout de 5 ans, il allait rattraper tout le retard qu'il avait. Oui. Et au final, c'est devenu un des plus grands basketteurs de tous les temps.
Et à la fin de sa carrière, il s'est entraîné peut-être 2 ans de plus que tout le monde.
Tiens, juste le mot de la fin avant de fermer la porte du vestiaire, parce que c'est un message qui m'interpelle de Marc sur WhatsApp. Il me dit, et un mec comme N'Golo Kanté, il a beaucoup d'ego.
Bien sûr, bah,
il en a, à sa manière, c'est différent, c'est pour ça qu'on comprend, il exprime en équipe de France.
Jouer être titulaire malgré le fait parfois qu'il ait fait des choix de club, jouer titulaire à Chelsea dans les grands clubs en Europe,
c'est que tu es conscient de tes capacités.
Ben évidemment.
Mmh. Voilà. Bon, il y a plusieurs.
Faut pas confondre l'ego et l'arrogance.
Exactement. Tu vois, par exemple, Christophe me dit sur WhatsApp, Usain Bolt, est-ce que c'était pas le Gold de l'ego? Bah, peut-être. C'est vrai. Vous savez quand il se tapait le torse. Mais c'est plus du chien, comme disait Philippe,
quand tu rentres dans les vestiaires en courant, tu envoies un message en disant mais fais ce que vous voulez, moi je suis prêt et je sais que je suis le meilleur.
Ben, vous savez, c'est Zlatan Ibrahimovic qui a dit cette semaine, voilà. Il ne faut pas confondre l'arrogance avec la confiance. Ceux qui confondent ça sont des imbéciles. Voilà. On l'embrasse. Zlatan, si tu nous écoutes pas.
Bisous.
On sait qu'il nous écoute pas. Et là, il nous appelle au 32-16. Je veux participer au jeu du sport. Eh oui, ouais. C'est ça peut-être qu'il faut se dire. Participer au jeu du sport en envoyant sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Aujourd'hui, un bon cadeau de 50 euros à valoir sur Agfa Photoprint. Et là, je peux vous dire, si vous participez avec vos GG, vous allez affronter une guerre d'ego. Total, c'est ce que je dois maîtriser tous les week-ends. Et c'est pas toujours facile. Allez, les amis, entre le vestiaire en podcast, évidemment.